ontologique. C'est un oubli ontologique. Alors on se rappelle d'autres relations beaucoup moins personnelles, beaucoup moins spirituelles. Et ces relations, elles, sont, ne nous assouvissent pas, n'assouvissent pas notre soif d'amour. Et c'est pour ça que ces relations sont toutes blessantes. Il faut toujours retrouver la mémoire d'origine, la mémoire d'éternité qui s'est imprimée dans notre substance. On dépend du Père. Bon, donc on avait vu tout à l'heure que, on avait vu tout à l'heure le, en quoi on est image ressemblance de Dieu. Avec cette dimension trinitaire qui est en nous, qui va impliquer donc l'intelligence, on est des êtres de lumière, d'accueil, on est des êtres d'amour spirituel, et on est des êtres à l'image, ressemblance de Dieu, on est des êtres qui sont advenus et qui sont lumineusement et encore resplendissants, de cette impression de la paternité lumineuse et éternelle du Père, Créateur. Et ceci est inscrit dans l'unité de notre esprit, de notre corps. On l'oublie parce qu'on s'est investi dans le point de vue psychique de l'âme et qu'on a perdu le sens, la mémoire du corps et la mémoire de l'esprit et la mémoire d'origine. Donc il y a donc cette mémoire, cette lumière imprimée en Dieu, cette mémoire d'éternité qui est en Dieu. Remarquez bien que cette mémoire d'éternité, il faut toujours se rappeler, à titre, pour éviter de perdre du temps, à titre de prise de conscience, c'est que il suffit simplement d'être présent à son corps, dans l'aspect donc très très fondamental, le plus petit, le plus cellulaire de notre corps. Et c'est là que vous vous rendez compte, si spirituellement vous êtes complètement éveillé, si vous êtes comme dans l'état dans lequel vous étiez au premier instant de votre vie, dans la première cellule. Vous mettez dans cet état-là par un exercice de mémoire, qui n'est pas un exercice de mémoire intellectuelle, c'est un exercice de mémoire corporelle et spirituelle en même temps, qui n'est pas du tout un exercice de mémoire souvenir, parce qu'on ne s'en souvient pas. Et vous vous rendez compte que cette soif d'éternité, cette soif d'absolu, cette soif, ce divin qui est en nous, c'est le corps qui crie cette soif-là. C'est pas tellement dans notre intelligence, c'est pas tellement dans notre affectivité. C'est inscrit. Il y a une lumière éternelle qui s'est imbibée, qui a imbibé le buvard de notre chair, de nos cellules, dès le départ. Et ça, quand les cellules se multiplient, elles retrouvent, elles ont toujours cette impression. Elle est voilée. Parce qu'on l'a oubliée. C'est un exercice de mémoire. On est intelligence, volonté, mémoire. Voilà. Et du coup, ça rejaillit sur notre psychologie, sur notre vie intérieure. C'est une vie intérieure. Et ça resplendit sur notre corps. Voilà, on en était là. Et du coup, il y a effectivement les trois grands mouvements vitaux d'une personne vivante. Les trois mouvements vitaux, c'est que du coup, elle est toute donnée. L'image qui est en elle, l'image de Dieu trinitaire qui est en elle, veut vivre et déborder. C'est pour ça qu'on a une tendance à nous donner d'une manière toute pure et intégrale, totalement, le don, l'amour, mouvement centrifuge, une tendance, un mouvement vital d'accueil de tout ce qui vit, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est perpétuel, tout ce qui est splendide. Et puis enfin, donc, un mouvement circulaire. Le mouvement circulaire est très intéressant à regarder parce qu'il va nous amener à la relation. Je fais un résumé de ce qu'on a vu donc ce matin. Le mouvement circulaire, c'est que nous avons donc d'abord trois grands types de conscience. Une conscience qui est profondément spirituelle, qu'on appelle la conscience d'amour avec un grand A, qu'on appelle quelquefois la mémoire ontologique, mais bon. La conscience d'amour avec un grand A, c'est la conscience spirituelle perdue, elle demeure, le maître spirituel qui est en nous, le petit roi, le petit prince divin qui est en nous, l'image ressemblante reste, elle demeure comme ça au fond de cette espèce de diamant de cristal qui est dans notre chair. Nous restons un prince, un fils, une image, une ressemblance, un trésor divin au milieu d'un univers qui lui-même attend la révélation du Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et vous voyez, alors il y a cette très très grande innocence divine qui ne demande justement qu'à grandir, resplendir, et ça nous donne une très grande force spirituelle. Cette conscience-là est très spirituelle, celle qui est la plus proche de la présence de Dieu au fond de nous. La présence de Dieu comme marque, comme trace. Et psychologiquement, lorsqu'on en prend conscience de cette force divine qui est en nous, lorsqu'on en prend conscience, alors à ce moment-là, donc c'est ici, la conscience d'amour est du côté de la mémoire ontologique, donc elle provoque un mouvement circulaire, elle se mue, ça devient une conscience de raison, m'excuse, ça marche pas mes trucs, ça marche pas. Bon, elle se mue en conscience de raison, et du coup, si on vit pleinement, ça déborde, et ça prend toute notre sensibilité interne et externe, et du coup, on va pouvoir être en relation d'amour total et personnel. On va pouvoir entrer en communion. On va pouvoir découvrir son père, découvrir sa mère, et découvrir qu'on est fils. Découvrir son identité, découvrir son nom, découvrir aussi son ami, découvrir sa moitié complémentaire. Voilà. Donc, c'est dans cette troisième... Alors, ce mouvement circulaire est merveilleux, vous voyez, parce que la relation de filiation réelle dans la communion des personnes, dans notre liberté actuelle, nous ramène à cette conscience d'amour. Nous ramène à ce mouvement centripète, nous ramène à cette conscience d'amour et redynamise notre vitalité intérieure. Les trois mouvements de vie sont simultanés. Mais voyez bien que toute la question que nous voulons regarder est liée à ce qui se passe au niveau de la conscience sensible, celle qui nous met en relation. Donc c'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop paumés. Si vous êtes perdu, vous m'arrêtez, vous me dites... Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions à poser plus précises, pour qu'on précise, pour qu'on approfondisse, vous me mettez un petit bout de papier, vous me dites, j'aimerais bien qu'on précise ça et ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas... Mais si vous trouvez qu'il y a une voie, enfin quelque chose qu'à préciser, n'hésitez pas. Donc, nous sommes en relation, déjà bébé, enfant, adolescent, jeune, avec d'autres personnes qui sont en nous, donc on se donne à eux, on reçoit d'eux. De même, on se donne à eux, on est reçu par eux. Il y a un échange de dons et d'accueil. Alors vous comprenez bien que quand on se donne à eux, c'est l'énergie toute pure de Dieu qui veut. Et ça, quelque part, psychologiquement, on en a parfaitement conscience, dans notre conscience de raison, à certains moments. Que quand on se donne à eux, le don est pur, sincère, libre. Enfin, on l'espère, pas toujours, mais si on se donne vraiment, on se donne vraiment. Déjà, le petit bébé, dans l'embryon, dans le sein maternel, se donne. Et son innocence d'amour... est en relation avec sa mère et il est livré à sa mère. L'innocence divine permet à l'embryon de faire des actes réels où le mouvement centrifuge de don, où Dieu se donne à travers lui à sa mère. C'est pour ça que l'embryon guérit souvent sa mère. Si la mère est attentive, si la mère reçoit. Et donc l'embryon, qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? L'adolescent, qu'est-ce qu'il fait? L'adulte aussi, qu'est-ce qu'il fait? Le sage, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se trouve avec ce mouvement centrifuge où Dieu se donne à travers lui, même s'il ne sait pas que c'est Dieu qui se donne à travers lui, et il compare sans arrêt ce qu'il reçoit en échange et ce qu'il donne. Et ce qu'il reçoit, surtout chez l'embryon, et ce qu'il attend, ne sont pas adaptés. Il reçoit moins que ce qu'il donne, parce que Dieu donne tout, parce qu'il n'y a aucun mécanisme de défense chez l'embryon, aucun phénomène de protection chez lui. Et c'est le propre de l'homme, ça. Il n'y a aucun phénomène de protection. Et par contre, c'est la maman, avec le péché originel, et avec les péchés personnels, et avec tous les atavismes, et avec toutes les blessures, il y a des phénomènes de protection qui fait qu'elle ne donne pas. Donc, je reçois, je compare toujours dans ma conscience d'amour ce que je reçois et ce que je donne. Je me donne et je ne reçois pas. Donc je compare mon vase d'amour se donne tout entier, il est vide, il est tout accueil et il n'est pas rempli. Il y a le désir d'aimer, le désir d'être aimé, vous voyez, qui font qu'il y a toujours ces deux mouvements, centripète et centrifuge, qui se comparent dans la conscience d'amour embryonnaire, dans l'innocence divine. Et la croissance de l'enfant, la croissance de l'homme se fait de cette manière-là, de sorte que dès la conception, l'enfant reconnaît parfaitement lorsqu'il y a manque d'amour, et lorsqu'il y a amour. C'est des choses que vous le savez déjà, parce que j'ai eu l'occasion de vous en parler souvent. C'est que bon, l'enfant, il sait très très bien, même s'il n'y avait aucune présence d'analyse corticale en lui, parce que le processus embryonnaire n'était pas assez développé, l'enfant se rappelle parfaitement s'il y a eu des tentatives de le supprimer. Avant qu'il y ait 70e jour, c'est-à-dire quelconque analyse nerveuse possible. Vous savez que les premiers éléments d'analyse corticale se font vers le 3e mois, 3 x 7, 21. Ah oui, facile. Qu'est-ce que je raconte? 3 x 3, 9, 90 jours, c'est ça? 70, 90. Bon, alors, en quoi consiste donc cette conscience d'amour? Donc, vous voyez un petit peu ce processus du mouvement circulaire. Je suis en relation, je compare, je continue à me donner, je prends conscience que je donne. Et vous voyez que la conscience de raison est plus du côté psychologique, et c'est pour ça que c'est elle, la conscience de raison, qui sera plus blessée quelque part. Et je reviens à la conscience sensible pour redonner et refaire cette quête dans la relation. Cette conscience sensible, donc, et donc, il faudra que je reparte à la conquête de cet amour que je n'ai pas en échange pour la retrouver. Et c'est ça, cet appel à l'amour. On est fabriqué avec de l'amour, conscience d'amour. On est fait pour l'amour, conscience sensible. Et au milieu de Dieu et la conscience de raison, on est blessé. Parce qu'on est en manque. Oui, donc le fait, cette conscience sensible, nos yeux, notre sens du toucher, notre odorat, notre oui, tout ça, et notre imagination aussi, notre mémoire, notre affectivité, elles sont toutes ordonnées, toutes fabriquées quelque part, toutes conçues en sagesse, créatrice de Dieu, pour que dans notre conscience sensible, c'est-à-dire dans notre relation concrète, eh ben, on soit totalement investi dans cette relation. Et puis, aussi, pour que cette relation soit ordonnée à l'amour, parce que la conscience sensible est toujours liée à la conscience profonde d'amour, à cette soif d'éternité dans l'amour, et à ce que soit pleinement vécu dans l'intérieur, conscience de raison. Donc c'est ordonné toujours. C'est une relation qui est ordonnée à l'amour. C'est ça que fait la conscience sensible. Alors, ça ça que, bien sûr, à partir du moment où la conscience sensible, à partir du moment où concrètement on veut vivre, être tout amour dans la relation avec celui qui est proche de nous, eh bien, ça va inférer sur les puissances intérieures, de la vie intérieure, du côté, donc, de la lumière, l'intelligence, de l'accueil, il va y avoir, l'imagination va jouer un rôle très grand, du côté de l'amour, de la volonté, de cette soif d'extase, d'être entièrement brûlé par les trésors de la, du don de l'autre, il y a tout le domaine de l'affectivité, et puis bien sûr du côté de la mémoire ontologique, cette innocence divine oubliée, insatisfaite, il y a la mémoire sensible. Donc là, c'est pour ça que, vous voyez, la mémoire sensible qui est ce qu'on essaye de creuser quand on va voir le psychologue, quand on va voir le psy, c'est de creuser la mémoire, ce qui se passe par la mémoire sensible. On ne va jamais jusqu'à la mémoire ontologique, bien sûr, mais il y a tout un domaine qui se gonfle, qu'on appelle l'inconscient. Bon. Donc, simplement, la conscience sensible, elle va se servir des puissances imaginatives, de l'imagination, de la puissance de la mémoire et des puissances d'affectivité. Comment est-ce qu'elle va se servir de l'imagination? Elle va se servir de l'imagination parce que quand l'imagination n'est pas abîmée, elle permet de porter en nous le réel qui nous entoure. Et aussi le réel profond. On sait très bien que, voyez, si l'imagination, il faut imaginer justement ce que c'est que l'imagination. C'est une espèce d'écran intérieur qui est en nous, qui fait que quand je suis en relation avec quelqu'un, avec une réalité, avec l'univers, je vois le pape, par exemple. La première fois, je vois le pape. C'est extraordinaire de voir le pape. Mais je le vois, lui. Alors, je vais... Grâce à l'imagination, j'ai quelque chose en moi, cette puissance me permet d'abstraire, de prendre dans la réalité que je vois. Carole Wojtyla, je vois Carole, je prends en lui ce qu'il y a de plus, dans cette réalité la plus concrète qui soit, je prends de lui ce que je peux porter en moi. Il y a une image de lui, mais cette image correspond à ce que j'ai touché en lui. Vous voyez? L'imagination, c'est très utile, parce que normalement, si c'est une surface de l'acte très tranquille, pas troublée, elle reflète les réalités extérieures, et elle reflète les réalités profondes aussi, sans les abîmer. Malheureusement, à cause de l'illusion, à cause du mensonge, à cause du doute, à cause de l'oubli, à cause de l'imaginaire, qui n'est pas l'imagination, à cause de tout ça, l'imagination a plein de rides et ne reflète plus. Et ne nous permet plus de porter à l'intérieur de nous-mêmes les réalités telles qu'elles sont, extérieures à nous, les personnes, et les réalités profondes. Alors on ne voit plus. Mais la conscience sensible a besoin de l'imagination. Parce qu'il faut que nous portions la réalité qui est extérieure à nous et les réalités profondes, les réalités les plus hautes, les plus spirituelles. Il faut qu'on les porte en nous. L'imagination sert à ça. Parce que c'est de là qu'on va abstraire, comme on dit, la substance des choses. Donc l'imagination... C'est ce qui permet, au fond, d'adhérer au réel. Il ne faut pas rejeter l'imagination. Il faut gérer l'imaginaire.
Oui.
Oui. L'imagination, c'est une puissance qui est au service de la vitalité amoureuse de l'homme, dans la lumière, et dans la vérité, et dans le réel. L'imagination me permet d'être, de porter le réel en face. Tandis que l'imaginaire, c'est une imagination, tu vois, qui a été troublée par, un, le doute, deux, par le manque d'amour, trois, par l'oubli, quatre, par les illusions, cinq, par les idéaux, six, par les schèmes, les fantasmes, les bousculades et les tempêtes intérieures. Et du coup, l'imagination devient imaginaire. Ça devient de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'au lieu de te transmettre le réel, ils te transmettent un monde qui n'existe pas et qui est artificiellement créé par la tempête. Alors quand on est dans l'imaginaire, c'est la folle du logis. C'est des reproductions anarchiques d'éléments perturbateurs. Ça ne veut pas dire que les éléments perturbateurs n'existent pas. Mais la reproduction du coup de l'autre, du réel et des profondeurs de Dieu, tu ne les perçois plus. Ça va? Donc l'imaginaire, c'est une imagination qui marche sur la tête, marche sur ses jambes. Donc l'imagination, il faut retrouver une imagination saine, grâce à la conscience sensible, qui permet d'adhérer au réel, de refléter les profondeurs, ainsi que les réalités extérieures telles qu'elles sont. L'affectivité, elle est portée. Donc l'intelligence, l'imagination est portée par l'intelligence profondément. C'est parce que mon intelligence a besoin que l'autre que je vois, je puisse le porter en moi grâce à l'imagination. Et puis je prends le trésor dans le bateau. Vous voyez, c'est un océan l'imagination qui reflète très bien. Et je prends, du coup, mon intelligence reçoit l'autre en gardant que sa substance, en gardant que ce qu'il y a de plus fort, de plus substantiel en lui, de plus personnel en lui. C'est l'intelligence qui veut accueillir l'autre. Elle reçoit grâce à l'imagination. Grâce à l'imagination, elle le porte en lui. Grâce à l'intelligence, elle se nourrit de l'autre. L'intelligence assimile et elle est transformée et nourrie par l'autre. La puissance d'accueil. Donc l'intelligence a besoin de l'imagination. Et dès qu'il y a l'imaginaire, l'intelligence est perturbée, n'est plus nourrie. Donc du côté de la volonté, elle a besoin, elle, de toute une affectivité qui soit toujours réorientée, réordonnée en fonction de l'autre, en fonction de l'amour, en fonction de notre véritable identité. Elle est portée donc par l'amour divin, par un amour immortel, par un amour indéracinable, par un amour qui ne s'arrête pas. Et cet amour, au fond, eh ben, psychologiquement, affectivement, cette affectivité, elle va se transmettre, elle va se vivre avec un désir très très fort d'aimer et un désir très très fort d'être aimé. C'est ça l'affectivité. Donc dans la tradition de la vie intérieure, on appelle le désir d'aimer l'irascible et le désir d'être aimé le concupiscible. Il y a des connotations négatives, mais le concupiscible, c'est comme l'imagination. Si un concupiscible est ordonné à l'amour, il est porté par l'affectivité profonde d'un amour immortel, indéracinable, et qui s'intensifie tout le temps, le concupiscible est très nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il porte dans l'intériorité cette possibilité de vivre intérieurement ce que spirituellement je vis et ce que réellement je vis. Je désire être aimé. Alors du coup, le concupiscible sert à ça aussi. Grâce au concupiscible, l'être aimé, je le reçois. L'amour qu'il me donne, je le reçois. J'en prends conscience, j'en vis, et du coup, mon cœur peut s'en nourrir. Et de même pour l'irascible. Je désire spirituellement aimer à l'infini. Grâce à l'irascible, je peux porter ce désir spirituel très 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 profond, très indéracinable, très intense qui est en moi, je peux le porter intérieurement avec une très grande force de vie, c'est l'irascible, et je vais à la conquête. Et mon amour va donc à la conquête. Mon amour se donne grâce à l'irascible. Et lorsqu'on n'aime pas spirituellement, lorsqu'on n'est pas dans une relation d'amour, et lorsqu'on n'est pas dans les mains du Père, de la Mère, et entre ses propres mains, alors à ce moment-là, le concupiscible et l'irascible, comme l'imagination se mue en imaginaire, le concupiscible et l'irascible se mue en peur, en peur, la peur de perdre, alors du coup la recherche de l'avoir, la peur de perdre et la peur de l'autre, voilà pour l'irascible. Et ça se mue du coup en colère, pouvoir sur l'autre. Ces deux contraires de la paternité et de la maternité, ces deux caricatures. Bon. Et la mémoire, elle, portée par la trace de la lumière éternelle du Père qui me donne sa vie jusque dans mon corps, cette lumière éternelle qui s'imprime dans mon corps, mon âme et mon esprit, cette mémoire ontologique, cette mémoire spirituelle, eh bien, elle porte ma mémoire sensible, tous mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs d'adolescence, mes souvenirs les plus anciens, les plus récents, tous mes souvenirs sont portés par la mémoire d'innocence, ma mémoire d'origine, ma mémoire divine, pour que je puisse faire anamnèse. Voilà un mot très barbare, n'est-ce pas ? Pour que je puisse faire anamnèse. L'anamnèse, vous savez, c'est ce qu'on quelquefois un acte, c'est un acte personnel, l'anamnèse, parce qu'un acte personnel, vous commencez à comprendre, c'est un acte où je suis consciemment relié à mon origine, à ce que je vis, à ce que j'en comprends, j'en ai conscience, et à ce que je vis actuellement jusque dans ma chair. Par exemple, quand vous mourrez, souvent, les gens n'ont jamais fait anamnèse de leur vie, puis quand ils meurent, ils font enfin un acte humain. Et toute leur vie, le fil rouge, du début jusqu'à la fin. Ça, cet acte-là, c'est un acte d'anamnèse. Vous avez entendu parler de ça. Mais il faut faire anamnèse avant sa mort, hein. C'est mieux, hein. C'est un peu son de ne pas le faire avant sa mort. Parce que je mets une cédille, moi. C'est mieux, il paraît que c'est plus correct. Bon, voyez, elle permet de faire anamnèse de tous ces événements passés, parce que tous les événements, quels qu'ils soient, même les événements blessants, sont habités par la présence du Père. Nous, qui sommes, pour ceux qui sont chrétiens, voyez comme nous, tous ceux qui sont vivants dans la grâce, ils sont habités par la présence de Marie, parce que le Verbe de Dieu, le Fils, en qui nous avons été créés, nous a donné une mère. Et donc tous les événements dont nous avons souvenir, même les événements blessants, sont habités par cette présence du Père, par cette présence de la mère, par cette présence de la Providence. Pour ceux qui ne seraient pas chrétiens, on peut dire ça à des gens qui ne sont pas chrétiens, en disant par la présence du Père. Plotin dirait ça, vous voyez, par la présence du Père qui vous a donné la vie, toujours là, par la présence de la Providence qui vous enveloppe dans la participation à sa vie. Il y a cette présence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Non, le mourant ne t'inquiète pas, il voit sa mort arriver, donc il laisse tomber tous les accidents. Et il vit de la substance, donc enfin il fait un acte de vie spirituelle, un acte de vie personnelle. Et c'est à cause de ça qu'il y a une liberté de la mémoire qui remet tout dans l'ordre, et il fait un acte de mémoire, d'anamnèse. Et il retrouve son fil, il retrouve son identité. Il dit, tiens, ma vie était nulle, mais pas si nulle que ça, parce que dans mon origine, l'amour était très puissant, très fort, très intense, très grand, et il m'a jamais quitté. Alors, il demande pardon, alors il se convertit, alors il souffre, ou alors, au contraire, il pourrait aussi refuser, bien sûr. Mais c'est là qu'il fait son acte de liberté, parce qu'un acte d'anamnèse ne te fait pas forcément faire un acte de foi et un acte d'amour. Hein. Mais il te le permet. Il fait que tu es libre de le faire en plénitude. Parce que ça a toutes les forces. Dès que tu fais anamnèse, tu retrouves toutes tes forces. Et tu peux utiliser tes forces à réinvestir dans le concupiscible, à réinvestir dans l'irascible, à réinvestir dans le repli sur soi.
Ça, c'est là que joue la liberté. Hein. Mais enfin, au moins, c'est l'avantage de la mort, c'est que c'est un des avantages de la mort, c'est que elle permet au péché d'être englouti. C'est pour ça que Jésus est mort, d'ailleurs. Pour que dans notre mort, notre péché soit englouti par sa mort et on est libre. Si on n'avait pas la mort, on ne pourrait pas avoir cette rédemption. La mort est une chose extraordinaire pour nous. Parce qu'elle nous débarrasse du péché. Si on veut. Hein. On peut très bien rentrer, comme le dit l'Écriture, dans la seconde mort. Hein. Ça, c'est un autre problème. Hein. À ce moment-là, c'est purement personnel, ça. Ben, on fait comme le démon. Alors, vous comprenez que ce lien dans la conscience sensible, vous voyez bien que la conscience sensible attire à elle, parce que c'est dans un mouvement circulaire, attire à elle. Ah, le schéma c'est bien, mais la conscience sensible, vous voyez, je l'ai mis ici du côté de la volonté, mais c'est quand même un mouvement circulaire. Donc la conscience sensible, elle circule dans tout mon corps. De même que la conscience d'amour, elle circule dans mon intelligence. Et ce mouvement circulaire de la conscience d'amour à la conscience de raison, à la conscience sensible, circule. Emporte mon imaginaire vers la relation, emporte mon concupiscible, mon irascible vers la relation, emporte mon anamnèse vers la relation. C'est pour ça qu'il faut être des grands vivants, pas être des loques. Grand vivant. C'est pour ça que Saint Benoît disait, il faut que les moines prennent au moins, je ne sais plus la mesure, mais ça correspond à un tiers de litre de vin à chaque repas. Il n'aimait pas de voir des moines, ce sont des loques, là-bas. Hein? Si vous avez un gros ventre, c'est pas grave, il faut être un grand vivant. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, donc, à raison de quoi l'intelligence est absorbée, l'intelligence reporte la mémoire vers la relation, la volonté porte le concupiscible et l'irascible vers la relation, avec l'autre, avec notre papa, notre maman. Vous voyez, s'il n'y avait pas le péché, hein, ce serait génial, vous voyez. Et parce que ce serait avec la même intensité que l'intensité d'amour originelle, hein. Mais le péché, il nous a drôlement saccagé le travail. Mais remarquez, c'est sympa, parce que du coup, c'est Jésus qui va bétonner et qui va remplacer, donc ce sera encore mieux. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, la mémoire, donc, sensible, les souvenirs, donc, est portée par l'innocence d'origine pour qu'on puisse faire anamnèse et ressaisir plus profondément encore la présence. À travers le visage de l'autre. Et c'est pour ça que petit à petit, aujourd'hui, étant donné qu'on est un petit peu disloqué, eh bien, nous avons besoin de retrouver les qualités intérieures qui structurent la possibilité d'être en relation avec un autre, avec notre père, avec notre mère, et nous-mêmes d'être en relation avec ceux que nous engendrons, capables d'être fils, père et mère. Et ces qualités qu'on appelle des vertus, c'est un mot très usé, n'est-ce pas ? Des vertus, concernant la conscience sensible, qui porte l'image de Dieu pour qu'on puisse être à la ressemblance de Dieu, vous voyez, on a créé à l'image, et maintenant, donc, avec les vertus, c'est à la ressemblance de Dieu, parce que c'est actuel, c'est parfaitement actuel. Je pose un acte où en plénitude je vis ça, alors il y a une vertu qui peut commencer à pousser. Et à chaque fois que je fais un acte qui correspond à ça, cette vertu augmente. Et l'acte suivant, elle croît encore. L'acte suivant, et puis au bout d'un certain temps, il y a une plante, il y a une réalité, il y a un pli, il y a une qualité intérieure qu'on appelle vertu. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actes de mise en relation qui écartent l'imaginaire, qui écartent la peur, concupiscible, recherche de la voix, la peur de l'autre, irascible, agressivité, colère, qui écartent les névroses, le bourdonnement intérieur, qu'est-ce que je suis mal, qu'est-ce que je souffre, qu'est-ce que je machin. Qu'est-ce que je suis inquiet, qui écarte tout ça, qui bouscule tout ça, et qui fait qu'il n'y a plus que l'amour, il n'y a plus que la réalité qui compte. Alors, quels sont ces trois? Les trois vertus qui interviennent, c'est l'obéissance, c'est l'humilité, c'est la confiance. Vous voyez? Il y a beaucoup d'autres vertus. Vous voyez, par exemple, il y a la prudence, il y a la charité, il y a la patience, il y a la chasteté, il y a les vertus, il y en a une, en pagaille. Hein. Il y a ce qu'on appelle très à la mode aujourd'hui, la tolérance, il y a, il y a la sagesse, il y a... Si on veut, la douceur, c'est pas tout à fait une vertu. La tempérance, il y a la force, il y a la justice, il y a la miséricorde, il y a la mansuétude, il y a l'épiquie, il y a la souplesse du cœur, etc. Il y a toutes sortes, il y a c'est très beau d'ailleurs les vertus. Mais concernant la relation de paternité, de retrouver la relation, retrouver son père, retrouver sa mère, retrouver son identité, les trois vertus. Les trois vertus d'origine, si je puis dire, qu'il faut retrouver, qu'il faut reposer des actes volontairement, lucidement et en anamnèse, hein, avec cette présence d'une mère parfaite et d'un père parfait. Et nous les avons, le père et la mère parfaite, n'est-ce pas ? Imbibé d'une présence enveloppante et dans une demeurance, il demeure là. Alors à ce moment-là, ces trois vertus sont là. L'obéissance. L'obéissance, elle est liée, vous voyez bien, au point de vue de l'intelligence, liée à l'imagination. Pourquoi ? Parce que l'obéissance, elle me met en contact avec le réel. C'est grâce à l'obéissance que je peux rentrer à l'intérieur de ce qui existe vraiment. Tant que j'obéis pas, je reste en moi. Ob, il y a deux choses dans l'obéissance en latin, c'est ob ire, je vais au-devant de la réalité, ire en latin c'est aller, je vais ob au-devant de la réalité. Mais ça, c'est aussi, c'est de là que vient obédience, ob audire, ça vient aussi de la ob audire. Entendre. On est capable d'entendre. Vous voyez, vous avez les deux aspects, centripète et centrifuge dans l'obéissance. Vous êtes capable, donc, d'aller au-devant de la réalité, vous êtes capable d'écouter ce qu'elle est. L'obéissance est quelque chose de très, très important. Elle va être transformée surnaturellement, notre obéissance, par la foi. Il faut vraiment qu'il y ait cette foi très profonde qui nous permette de croire qu'il ne faut regarder que dans l'obéissance celui qui est proche de nous. Parce que si on le regarde en fonction de ce qu'on ressent, on n'y croit pas. On ne croit plus à l'amour. Et l'obéissance, c'est pour rentrer dans la vérité de Dieu, voir la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle est. Telle que Dieu la voit, telle que Dieu la crée. La réalité du Christ telle qu'elle est, telle que le Saint-Esprit la révèle, telle qu'elle est, pas telle que ma petite religion à moi, ma petite toutouille, la voit. L'obéissance à la réalité telle qu'elle est. L'obéissance à la vérité, à la réalité. L'obéissance du Christ. Vous voyez, l'obéissance, c'est lié au sens du réel. Quelqu'un qui n'obéit pas a perdu le sens du réel. Du point de vue du cœur, du point de vue de l'imagination, du point de vue de psychologique, du point de vue de l'intériorité, du point de vue de l'extériorité, du point de vue des relations aussi, du point de vue... On peut être très sincère, mais il n'y en a plus aucun sens du réel si on n'a pas l'obéissance. Ça, c'est très clair. Elle ordonne donc l'imagination au plus haut. C'est ça l'obéissance. Elle ordonne l'imagination au plus haut parce qu'elle est portée par l'intelligence, et l'intelligence, elle est portée... L'obéissance porte l'intelligence à ce qui est. Regardez ce qui est vécu. Regarde ce qui est, tout simplement. Je fais la différence entre la vie et l'être. C'est grâce. C'est très extraordinaire l'obéissance pour ça. Aller au-devant de ce qui existe. La deuxième vertu, c'est l'humilité. L'humilité, elle permet d'attendre pauvrement, vous voyez. Elle permet d'attendre et d'espérer dans la confiance, elle espère, mais pas dans la confiance. Elle permet d'espérer, elle permet d'être pauvre, d'aimer, d'attendre que ce soit l'heure. Elle permet d'être dans un état de pauvreté tout en persévérant. Elle permet de demeurer. Elle permet de durer l'humilité. L'humilité, pourquoi est-ce qu'elle me permet de durer? Parce que je me souviens, vous voyez, c'est lié à la mémoire d'origine, je me souviens que ce n'est pas moi qui suis la source. J'ai l'humilité de voir, puisque avec l'obéissance je vois ce qui est la réalité, je ne suis pas source. Je me rappelle que je ne suis pas source. Je suis dans un corps, et ce corps est originé divinement dans la paternité de Dieu, dans la paternité tout court. Et donc, je ne suis pas source. Il y a un Père qui m'engendre. Je suis sans cesse engendré par le Père. L'humilité, si vous voulez, elle fait toujours mémoire de la paternité. Le Père est présent. Ce n'est pas moi qui suis source, c'est un autre. Je suis humble, je le sais. Je ne veux pas refuser ça. J'ai un Père. C'est mon Père, il est présent. Et je ne veux pas l'oublier. Oublier son Père, c'est de l'orgueil. Ah, ça peut être explicable si vous voulez, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on préfère dégager. Hein, ça, c'est, parce que c'est très, quelquefois très blessant, hein, c'est sûr. Donc l'humilité, c'est ça. Elle gère la mémoire pour faire anamnèse et retrouver tous les événements et tous les instants présents et à travers eux, toujours la présence du Père. C'est pas moi qui suis source. Je reçois ma vie et j'attends et je persévère. Ça permet de demeurer dans l'épreuve, ça. Grâce à l'obéissance, je peux adorer mon Créateur. Je vous signale. Grâce à l'obéissance, je peux adorer mon Créateur parce que je touche la réalité de l'existence. Et l'existence est originée dans le Créateur. Et grâce à l'humilité, je retrouve le Père, celui qui me donne la vie. Grâce à l'obéissance, je trouve la présence de celui qui fait que j'existe. Grâce à l'humilité, je retrouve la présence vivante de celui qui me donne ma vie, de celui qui me fait vivre dans la lumière, dans l'amour et dans l'immortalité, pour ne dire plus que l'immortalité, dans l'instant éternel de l'instant présent. La confiance, c'est la troisième vertu, elle me dispose non pas à une attitude d'attente, de demeurance et de persévérance, mais plutôt à une attitude d'abandon. Elle oriente, la confiance fait qu'on est en relation d'amour, mais dans la bonne direction. On est tout donné et on reçoit tout. C'est ça la confiance. Voilà trois vertus très très fondamentales qui sont des vertus qui étaient au fond les trois grandes vertus du paradis terrestre, si vous voulez. Vous voyez, avant le péché originel, il y avait ça
à l'état infus et plaigné. Humilité infuse dans la grâce originelle. Confiance infuse. Obéissance infuse. Et pourtant, il y a eu la désobéissance.
Mais il y avait ces qualités-là. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il se fasse une énorme violence pour commettre la...
Et vous voyez bien que ça a commencé. C'est pour ça que Satan n'a pas attaqué sur la paternité de Dieu. Il n'a pas attaqué sur la relation. Il a attaqué sur l'imagination. Il a attaqué sur la conscience de raison. Il a fait un mensonge. Il a troublé Ève. Il a attaqué sur l'obéissance. Il n'a pas attaqué sur l'humilité. Il n'a pas attaqué sur la confiance. Il a dit un mensonge. Donc l'obéissance au réel était perturbée. C'est très rusé, hein. C'est très rusé. Il faudrait le relire, tout ça. Et donc ces trois vertus, Dieu étant présent dans le jardin d'origine, mais Dieu étant présent dans notre jardin originel actuel, rétabli par notre désir de retrouver Dieu, notre désir d'être dans l'adoration, notre désir d'être dans les mains du Père, notre désir de sainteté, notre désir d'être tout entier, brûlé par le Christ, réengendré dans la vie. Alors à cause de ça, toutes ces trois vertus fondamentales, qui sont des vertus humaines, et naturel, de sagesse presque infuse, presque, mais qu'il faut retrouver en reposant des actes, vont être transformées, reprises de l'intérieur et habitées par les vertus théologales. L'obéissance va être portée intérieurement par des actes de foi, c'est-à-dire d'union totale au Christ, à Jésus. L'humilité va être entièrement habité par la présence paternelle du Père, de l'intérieur transformé, surnaturalisé, éternisé, si je puis dire, par l'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donneriez, voilà, l'humilité, votre grâce en ce monde, votre vie de ce monde, votre vie divine de ce monde, et l'éternité bienheureuse d'une vie glorieuse. Dès maintenant, je reçois dans l'humilité, je persévère à recevoir cette vie divine et cette vie éternelle. Et enfin, la confiance qui redispose l'amour dans la bonne direction, dans un abandon total d'amour, est portée par la vertu théologale de charité, d'amour surnaturel, d'agapé. Et l'agapé fait que l'amour voit la présence amoureuse de Dieu à travers tous les événements, à travers tous les visages. C'est pour ça que l'agapé implique l'amour des ennemis. Et on est abandonné. Ça, vous voyez, c'est une petite vision de structure. Parce que c'est à partir de ça que on va pouvoir retrouver son père, retrouver son identité, retrouver sa mère, retrouver sa fécondité, retrouver sa santé, retrouver sa sainteté. Et quand, à partir du moment où je fais ces actes pleniers de confiance, d'humilité, d'obéissance, en présence vivante, alors, à ce moment-là, je peux à nouveau aimer et accueillir comme un fils la vie, l'existence et les événements. Comme un fils. Parce que c'est sûr qu'à partir du moment où je me suis sombré dans le point de vue psychologique, je n'ai plus été fils. Pourquoi ? Parce que je ne voulais plus, c'était trop dur, c'était trop pesant, c'était trop blessant, c'était trop étouffant. Alors, il y a eu des mécanismes de défense, je ne veux plus être fils. Je ne veux plus être un enfant, je ne veux plus être engendré. Être fils dans ce qui est et dans le réel. Vous voyez, si je fais ça. Alors, cette disposition-là, spirituelle, psychologique, physique, réelle et surnaturelle à la fois, par le biais de la conscience sensible, elle va intervenir dans les relations qu'on a
avec ceux qui sont proches de nous. Vous voyez, hein, ça fait quand même pas mal de préambule, là. Et parce que si j'aurais pu vous parler de la relation tout de suite de paternité et de maternité, sans ces préambules, vous auriez dit, c'est... Alors à ce moment-là, il y a un danger, parce que à ce moment-là, j'aurais parlé de la relation, et puis on aurait compris quoi, Ben oui, mais la relation, bien souvent, ce serait des relations polluées, ce serait des relations introjectées, projetées. Mais si c'est, je suis en acte dans toutes ces dispositions dont je viens de vous parler, ce qui est très facile à faire. Ça dure peut-être que 3 secondes, mais c'est facile. Hein. Ce qui est dur, c'est que ce soit pendant 2000 secondes de suite. Ça, c'est la sainteté, ça. Et 3 secondes, tout le monde peut le faire. Alors, à ce moment-là, on est en relation. On est en relation avec toutes ces vertus de confiance, d'humilité. Et on a retrouvé cet état, cette liberté originelle, par la puissance, donc, de notre amour, retrouvé dans la force de Dieu, dans l'amour du Christ. Ça, c'est sûr que Jésus joue un rôle très important. Hein. Ça, c'est trop clair. Ça, on ne pourra jamais assez le dire. De manière à être en position d'écoute, pour écouter donc l'autre tel qu'il est, pour être en relation d'intériorité en même temps. Parce que tous les problèmes des relations perturbées, c'est ou bien l'écoute qui manque de l'autre tel qu'il est, ou bien l'intériorité qui n'y correspond pas. Alors j'écoute, comme fait le psychologue, qui écoute beaucoup, 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 et il faut qu'il fasse très attention à qu'il n'y ait aucune complicité, qu'il n'y ait pas une intériorité. Ou l'inverse. Donc j'écoute, pardon, je n'écoute pas, mais je vis intérieurement tout l'autre qui est en face de moi. Les deux thérapies. Deux thérapies d'efficacité, les deux thérapies d'antifécondité. Vous savez, parce que la thérapie analytique est une thérapie anti-père, anti-Christ. Ça peut aider, je ne dis pas que ça ne peut pas aider, parce que ça peut aider à remonter, faire remonter des souvenirs notamment. Et une fois qu'ils sont remontés, alors à ce moment-là, il faut faire anamnèse. Il faut laisser tomber l'analyse, faire anamnèse et retrouver, faire une nouvelle lecture de ces événements avec la présence qu'on avait oubliée. Ça a l'air complexe comme ça, mais c'est très, très simple.
Mais ils ont
des racines. Ils ont des racines. La différence qu'il y a entre... Je comprends. Il y a la différence que je comprendrais bien. Oui, ben ça c'est une sacrée blessure. Dans sa conscience de raison, c'est une sacrée blessure. Donc imaginez que toutes les défenses qu'il doit... Si un jour il rencontre Jésus, il rencontre le Christ, il découvre d'un seul coup que son père et sa mère se sont aimés, qu'il y avait un amour infini au départ, que ça ne l'a jamais quitté, et encore aujourd'hui, et qu'il reprend, il relie tout ce malheur à travers tout ça, et il retrouve, en plus, tu vois, mais... Ah non, tu parles de quelqu'un de concret, je comprends. Ah oui, non, d'accord. Alors attends, alors si tu parles d'une personne concrète, c'est autre chose. Si tu parles d'une personne concrète, je ne la connais pas, donc je ne peux pas t'en parler. Moi, je fais pas la partie de l'expérience, je connais pas cette personne. Mais je peux te parler de gens que j'ai connus, avec qui sont dans des cas analogues. Donc à partir du moment où Jésus se manifeste à eux, qu'il est accueilli pleinement, qu'il est aimé pleinement, et qu'on se donne pleinement à Jésus, et qu'on refait anamnèse, alors à ce moment-là, on fait une relecture même de l'expérience poubelle. Différente. Et à ce moment-là, heureuse faute qui nous a valu une telle sainteté, une telle grâce, une telle vocation à un amour suréminent, bien plus suréminent que si j'avais eu père et mère. Mais ça...
Vraiment rencontrer le Seigneur, quoi.
Oui, ça je reconnais que là, ici, il y a une intervention du Rédempteur qui joue très fort. Une rencontre avec Marie.
une rencontre.
Un barrage presque là, et surtout au niveau de la mer. Mais elle se mine quand même, elle fait des progrès.
Ah bon, mais tant mieux. Bon, priez pour elle. Non, mais je comprends très bien ce que je veux dire. C'est souvent, souvent, on est blessé. Si on est blessé par le côté maternel, mais ça, on va le voir dans les... on n'aura pas le temps, mais on aura, normalement, on va le voir demain, mais si on est blessé plutôt par la mère, c'est par l'amour paternel qu'on va être rétabli du côté de la grâce. Si on est blessé par du côté paternel, c'est plutôt par l'amour maternel qu'on va être rétabli du point de vue de la grâce dans l'amour paternel. Mais c'est un autre problème, ça, n'est-ce pas? Pour l'instant, je regarde seulement la structure, n'est-ce pas? Je ne veux pas garder des cas particuliers. Ce que je veux regarder, c'est que je veux qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne comment on est fait. Qu'est-ce que c'est que l'image, ressemblance de Dieu? Et comment on aime? Il faut comprendre qu'il faut prendre toutes ses forces en présence. Avec les points de vue des vertus théologales, avec les trois vertus fondamentales, avec l'imagination, avec toute son intériorité, avec cette ouverture sur le réel. Ça, c'est quelque chose de très simple, de très important, et presque on a honte de le dire, tellement c'est évident, n'est-ce pas? Bon, à partir de ce moment-là, on retrouve une relation qui n'est pas perturbée, ne serait-ce que quelques secondes, et ça suffit, vous savez, un flash, souvent, pour rétablir l'électricité. Terminé. Pas toute l'électricité, parce que les ampoules sont vieilles, hein, au bout de 20 ans... Hein. Les douilles se sont rouillées, bon, ça fait rien, on va utiliser les vertus, du coup, après, théologales, pour huiler la machine, n'est-ce pas? On va visser, tout ça. Donc, vous voyez, à cause de ces actes tout pleiniers d'amour, qui impliquent tous ces éléments que je viens de dire, on devient des êtres d'écoute, de vie intérieure, en même temps d'écoute du réel et d'intériorité. Tout à la fois. Tout à la fois. Vous voyez ? Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait dire ça ? Il y a des étapes d'ailleurs, on verra, je ne sais pas si on aura le temps, mais un enfant par exemple. Prenez un enfant jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans et tout écoute. C'est vrai qu'à partir de 4-5 ans, vous le savez, l'enfant commence à s'agiter sérieusement, n'est-ce pas ? Parce qu'il prend conscience du... Il prend conscience de il sociabilise, donc il écoute beaucoup moins et beaucoup moins réceptif hein, par rapport à celui qu'il a, qui passe. Mais il y a des moments, il y a des étapes dans la croissance de l'enfant, dans la croissance de l'adolescent et dans la croissance de l'homme, où c'est plus l'écoute, hein, où c'est plus l'intériorité qui compte. Un enfant à 3-4 ans, vous le savez bien, est très très intériorisé et en même temps... Tout à fait, à l'écoute. Et puis après, à partir de 5 ans, il se sociabilise. C'est plus la relation, c'est plus l'investissement. Bon, enfin, peu importe, on regardera ça une autre fois. Donc, on est disposé à cette écoute, toute intérieure et toute réelle, toute objective. On est disposé à, deuxièmement, à être dans un état d'anamnèse, de présence, de l'amour vivant et lumineux du Père qui nous engendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui nous regarde, qui nous aime. S'il ne nous regardait pas, on ne vivrait pas. S'il ne nous aimait pas, on n'aurait pas soif. S'il n'était pas présent, on ne vivrait pas. Alors, cette mémoire se traduit sur le plan du corps dans le fait que on rentre dans l'oblativité, on s'offre à lui. On s'offre. Le Père nous donne la vie, on s'offre. Parce que le Père donne sa vie. Il donne la vie à Dieu, il donne la vie à son Fils. Et à tel point que le Fils, c'est Dieu lui-même. Et c'est sûr que le Père donne sa vie. Et du coup, il y a en présence du Père comme une oblativité, un instinct d'offrande de soi, une capacité à se livrer totalement à celui que j'aime, une capacité de se donner. La mémoire fait que je suis en présence du Père, fait que je suis plus bloqué pour me donner, pour donner du temps, pour donner du cœur, pour donner la vie. Si je ne suis pas fils, je ne peux pas être père.
évident, ça. Et donc, il faut absolument retrouver le Père pour pouvoir trouver ce mouvement d'adoration vitale. Parce que je dépends de cet amour, ce regard du Père, cette présence du Père, pour pouvoir donner, pour pouvoir être oblatif, pour pouvoir m'offrir, pour pouvoir tout offrir, pour pouvoir donner, vous voyez, l'oblativité. Je me donne, je m'engage, hein. Je deviens source de don, parce que le Père est en moi, et donc je deviens source. C'est le Père qui est source, mais du coup, il y a quelque chose qui sort de moi, c'est le don. Je suis offert, je m'offre, je me donne. Et du coup, il y a une communion qui est possible. J'ai tout reçu, il me donne tout, donc je donne tout. Et du coup, il y a une communion, cette communion profonde qui nous relie avec le Père, toujours, parce que le Père fait l'unité profonde de tout ce que je suis dans l'ordre du don, et j'ai été créé comme don. Quand j'ai commencé à vivre, tout m'a été donné. Je suis don, fabriqué par du don vitalement, et fait pour le don. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II. L'homme fabriqué avec la dimension du don. Sept discours là-dessus. 1980. Sept discours d'une heure uniquement là-dessus. Eh oui, alors à ce moment-là, on redécouvre, grâce à cette unité profonde, qu'on est en communion, qu'on appartient à un père, qu'on est dépendant d'une famille, qu'on est dépendant d'une humanité, qu'on dépend d'une communauté spirituelle. On fait mémoire. Ouais, c'est pour ça que c'est dans les peuples vivants de fils qu'on fait mémoire. L'Eucharistie, c'est on fait mémoire de Dieu. Dans le peuple d'Israël, c'est tellement lié à la paternité de Dieu, on fait mémoire. Zikaron, rappelle-toi que Dieu est un. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout. Rappelle-toi, tu t'en rappelleras. Tu t'en rappelleras, tu t'en souviendras, tu te le répéteras, tu le répéteras toujours à toi-même et du coup à ton fils, que tu sois levé, que tu sois couché, que tu sois debout, que tu sois en voyage. Tu le répéteras sans arrêt, tu t'en rappelleras. Là, tu fais mémoire, du coup tu es en communion avec le Père, du coup tu fais partie d'une famille, tu es dans l'unité, tu vis cette communion. Tu es lié à l'espèce humaine, tu es lié à une famille, tu es lié à la famille divine aussi, bien sûr. Et ça permet, du coup, grâce à cette communion profonde, tu découvres ton identité. On ne peut pas découvrir son identité que face à son père. C'est pour ça que l'absence du père fait qu'on a perdu totalement ses repères et son identité. Son identité d'homme, son identité de femme, son identité d'enfant. Il n'y a plus cette relation entre... Il n'y a plus cette harmonie réelle entre la réalité existante et ce que je vis. J'ai perdu mes repères. Perdu mon... C'est que face à son père qu'on retrouve son identité. C'est impossible autrement. Vous voyez ? Donc cette disposition nous permet donc, premièrement, d'être en état d'écoute, en état de communion, et enfin en état de confiance et d'abandon, en état de dépendance, si vous voulez. On est en relation de dépendance, on dépend totalement de l'amour. Et comme on dépend totalement de l'amour, on est tout à fait relatif. Et je peux vivre le désir d'aimer et d'être aimé simultanément. Et je m'abandonne à ça parce que, non seulement j'y crois, mais je laisse librement cette fureur d'amour saisir toutes mes capacités d'accueil et de don, voyez. Et cette confiance-abandon n'est possible que si j'y associe, et c'est ce que cette disposition troisième apporte de nouveau, ce qu'on appelle la vulnérabilité. Parce que quand on est abandonné à l'amour, on devient, du coup, extrêmement vulnérable. Parce ce que disait la petite Marthe Robin, elle disait c'est très, l'amour est si grand. Il n'est pas grand parce qu'on est consumé par l'amour, brûlé par l'amour, mais parce qu'on est consommé par l'amour. D'autres diraient méchamment bouffé par l'amour. On devient vulnérable. On devient vulnérable. Cette disposition, ces vertus et cette puissance, cette retrouvaille avec notre identité et cette liberté du cœur fait que on accepte cette vulnérabilité. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'on peut s'abandonner encore plus profondément pour que le désir d'aimer et d'être aimé soit uni dans un acte qui ne sépare pas les deux. Quand les deux sont séparés, je vous l'ai déjà dit, paf, on tombe dans la peur concupiscible, dans l'avoir, dans l'agressivité, peur de l'autre. C'est la colère, oui. Ben, vulnérable, vulnus, vulneri, ça vient du latin, comme souvent les mots en français. Vulnus, vulneri, vulnus, c'est la blessure. Et vulneris, c'est le génitif, donc c'est tout ce qui relève de vulnérable, tout ce qui relève de la blessure. Alors, lorsque on fait ces actes-là, puisqu'on n'est pas confronté à cet amour plaigner tout de suite, on est enfoncé davantage dans la blessure. Mais comme le Christ est là, du coup, on est enfoncé plus intimement dans la blessure du cœur de Jésus, qui elle brûle dans un amour inextinguible et plus qu'infini. Et c'est pour ça que ça nous met dans un amour encore plus puissant, à cause précisément, peut-être aussi, des blessures concrètes qui sont là. Et du coup, ça nous met dans une disposition à nous abandonner encore plus à l'amour pour avoir encore plus d'amour dans cette blessure. Mais si on n'accepte pas la blessure, si on fonce pour être encore plus abandonné, encore plus vulnérable, alors l'amour s'arrête. Et donc il y a l'acceptation de l'épreuve, et l'acceptation de l'épreuve, l'acceptation de cet état de vulnérabilité est quelque chose de très important, à condition qu'on s'y enfonce avec une très grande gratitude, avec un très grand amour. Alors ça, c'est vrai que Jésus nous a aimés d'un si grand amour qu'il nous donne tout dès qu'on lui demande. Si on est dans ce qui a précédé, donc cette oblativité, cette communion profonde avec le Père, d'une part, et cette écoute vis-à-vis du réel, je n'ai pas refusé d'être blessé. Par lui concrètement, par elle concrètement, n'est-ce pas? Voilà, donc le chemin normal pour retrouver une relation humaine. Belle ordonnance, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On ne fonctionne pas toujours comme ça. Alors c'est pour ça qu'il va falloir se reprendre, bien cibler son affaire, s'arrêter de temps en temps, faire anamnèse, faire des actes de confiance, faire des actes d'abandon, faire des actes d'humilité, retrouver physiquement cette source qui fait que le Père fait vivre chaque cellule de mon corps, me fait vivre spirituellement, et puis bouscule tout mon vécu intérieur, tous mes problèmes qui me perturbent, bouscule tout ça, et qu'il n'y a plus que ce don, qu'il n'y a plus que le Christ, pour bétonner ce que je n'arrive pas à faire, et je vis ça pendant quelques secondes. Le faire ça de temps en temps, recommencer. Comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus à ses petites novices, puisque vous avez eu des petites religieuses hier, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire dans un noviciat? La petite maîtresse des novices, elle avait que 22 ans, je crois, hein, quand elle était 22 ans, quand elle était maîtresse de novice Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus. Elle avait des novices qui avaient 30 ans. Alors elle leur apprenait à aimer, vous voyez, l'abandon. C'est merveilleux, l'abandon. Elle se servait de l'imagination. Elle leur disait, mais il faut servir de l'imagination, bien sûr, elle ne disait pas comme ça. Elle disait, voilà, tu es là, tu ouvres les yeux, tu fais simplement avec ta main ici, là, un petit mouvement comme ça, avec ton pied, un petit mouvement comme ça, comme si tu voulais monter dans les bras, aller vers lui. Et Jésus fait le reste, à l'infini, parce que tu es dans les bras du Père. Hein, exactement comme moi quand j'étais petite fille, je voulais monter l'escalier qui était grand comme ça, parce que moi j'étais petite comme ça. Et dès que je levais la main et le pied, papa il voyait bien que je ne pouvais pas le faire, et donc aussitôt, ouf, il me prenait, et moi, il me faisait monter l'escalier. Il suffisait que je fasse comme ça, c'est tout. Et ça, il suffisait que je fasse le petit mouvement. Tu es face à quelqu'un d'autre, tu fais le petit mouvement, il ne le voit pas, ce n'est pas nécessaire. Mais tu fais le petit mouvement, Jésus fait le reste, et d'un seul coup, et tu le fais en plénitude. Hein, et sans aucun fil à la patte. Hein, les Saint-Thérèse d'Enfant Jésus disait, faites-le 50 fois par jour. 50 fois. 50 fois 4 secondes, c'est pas terrible. 5 fois 4, 20, 200 secondes. On passe plus de temps pour se laver les dents. Hein. Pas moi, hein, mais... Je vous donne l'autorisation de ne pas vous laver les dents le matin. Pour faire ça, vous gagnez comme ça 200 secondes dans la journée, comme ça vous n'avez pas perdu une seconde. Et vous vous laverez les dents le soir, vous inquiétez pas. Vous n'en mourrez pas, il n'y aura pas de caries. En relation, il va falloir qu'on comprenne qu'on est en relation tout naturellement, mais aussi en raison des circonstances par lesquelles nous sommes passés, en raison des plis dans lesquels nous sommes tombés, en raison des manques d'amour paternels et maternels, en raison du péché donc de l'atavisme, en raison aussi du péché symbiotique, en raison aussi des séquelles du péché originel, eh bien, les relations que nous avons, qui sont des relations spontanées, des relations sincères avec autrui, sont toutes entachées donc toutes perturbées. Donc pour retrouver une relation non seulement sincère et spontanée, mais en plus humaine, il faut s'arrêter 50 fois par jour, c'est là qu'on en était, et refaire un acte d'abandon, un acte d'amour vis-à-vis de la paternité actuelle du Père, vis-à-vis de faire un acte d'amour, de pardon total à son propre papa de la terre, à sa propre maman de la terre, refaire un acte de pardon, de gratitude, de reconnaissance, quoi qu'il soit arrivé. Parce que la maternité parfaite était cachée derrière, même si cette maternité concrète était insuffisante. Et heureusement qu'elle était insuffisante, parce que c'est à cause de ça que nous devons nous élancer dans la sainteté et briser l'obstacle, c'est-à-dire rentrer dans l'oblativité et nous donner en crevant tous les plafonds. Et s'il n'y en avait pas à crever les plafonds, ce serait plus de l'amour. Passer donc de l'océan d'amertume, de l'océan du marécage, vous voyez, à cette soif de pureté, du coup, qu'on va chercher dans des introjections charnelles, et retrouver cette paternité qui fait qu'on est pleinement actué. Alors, à ce moment-là, et retrouver ces trois vertus, vous voyez, c'est assez facile, en fait, à faire. C'est assez facile, moi, je crois que c'est assez facile. Retrouver le Christ qui vient, qui m'aime, qui transforme tout en moi et qui fait que je suis à nouveau dans un acte d'amour total. Et sous ce regard-là, sous ce réveil du corps-là, sous ce réveil de mon désir d'aimer et d'être aimé, sous ce réveil actuel de toute ma vie, toute mon anamnèse, sous cette gratitude, cette oblativité, cet abandon, faire un acte vis-à-vis de celui que j'aime. Celui que j'aime, vous savez, ça peut être Jésus, hein. Ça peut être celui qui est proche de moi, ça peut être Dieu. Peu importe, l'amour, du moment qu'il est actuel, me rétablit en relation. Et fait que je redeviens fils vraiment, réellement, corps, âme et esprit. Peu importe dans quelle direction je fais
orienter mon acte d'amour. C'est peu importe. L'essentiel, c'est de faire ces actes d'amour vis-à-vis d'une personne réelle. 50 fois par jour, 200 secondes par jour. C'est pas mal, ça, comme thérapie. Pour thérapie psycho-spirituelle, pour retrouver non seulement une relation spontanée, mais faussée, mais une relation spontanée et instinctive, spirituellement parlant, qui est retrouvée et qui est réelle, qui est une relation donc de fécondité et de vie. C'est une relation humaine. Ce n'est plus une introjection, une projection, une captation, une invasion. Une peur. Et donc, c'est ça le préambule à tout ce qu'on voudrait voir. Et je crois que c'est demain qu'on se voit la prochaine fois ici, n'est-ce pas? Ah, tout à l'heure. Donc, ah bon, pardon. Donc, tout à l'heure. Et on va essayer de regarder, donc tout à l'heure, on va commencer à regarder donc, ces relations de filiation, de paternité, de maternité. Je vais vous...